Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Louis. Nova.
Il y a un truc où on peut beaucoup se planquer derrière la parole. Quand on a un accès à la parole facile, et à un moment donné, il faut des actes, en fait. Et je pense que les lettres, c'est ça aussi, c'est des actes. La parole, si elle ne s'incarne pas, si elle ne devient pas un objet, ça ne se suffit pas.
David Kesselson est comédien, metteur en scène, et il publie avec les lettres non écrites son premier livre, recueil de textes écrits pour ceux qui n'osaient pas ou ne pouvaient pas le faire. Il a joué les porte-voix pour des femmes et des hommes qui lui racontaient les lettres qu'ils contenaient en eux-mêmes sans jamais pouvoir les en extraire. Lettres à un oncle disparu, à un mari noyé, à un enfant pas encore né ou à un père violent. David Kesselson a posé ses mots sur les silences des autres. Et ses épîtres, d'abord dites sur scène avant de devenir livre, sont nées de la découverte d'une autre, adressée par le philosophe André Gortz à son épouse Dorine, dans « Lettre AD, histoire d'un amour ». C'est un livre qui commençait par « Tu vas avoir 82 ans, tu as rapetissé de 6 cm, tu ne pèses que 45 kg et tu es toujours belle, gracieuse et désirable. Cela fait 58 ans que nous vivons ensemble et je t'aime plus que jamais. Je porte de nouveau, au creux de ma poitrine, un vide dévorant que seul comble la chaleur de ton corps contre le mien. » C'est ce livre d'André Gortz qui a bouleversé David Kesselson. Je suis Charlotte Pudlowski, bienvenue dans Fracas.
Ça représente, c'était un choc quoi, quand je l'ai lu. C'est une femme qui m'avait offert ce livre juste après sa sortie, en me disant, je pense que ça te plaira, peut-être t'en feras un truc un jour. C'était un moment où j'avais pas de boulot, où je cherchais des textes à monter. Et comme beaucoup, j'ai lu le texte et je me suis dit, ok, moi je veux vivre ça, évidemment. Ça doit être ça, une histoire d'amour. J'étais un peu bébête, quoi. Mais donc ça m'a énormément touché. Et puis j'avais très vite décidé d'en faire quelque chose. Je me suis dit, j'avais envie de le raconter aussi. Puis j'ai pas trouvé comment. Et un an après, je suis allé au bar en bas de chez moi. J'avais pas de boulot. J'étais un peu triste. Et comme tous les matins, je vais boire mon café, j'ouvre Libé. Et dans Libé, je vois que Gortz et Dorine se sont suicidés. Et là, je m'effondre en larmes. Et le barman me dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Enfin, ça va pas. C'est le boulot. Évidemment, j'étais complètement idiot. J'allais pas lui dire, non, mais il y a deux vieux que je connais pas qui viennent de suicider. Et ça me bouleverse. Et je me suis dit, bon, ok, cette histoire provoque vraiment quelque chose. Il faut essayer de construire une manière de la partager au-delà du livre. Voilà, je n'ai plus regardé les choses comme avant, quoi, après ça. Au-delà même de la question amoureuse, où évidemment, je voulais être comme ce couple, quoi.
Oui, parce que ce qu'il faut dire, c'est que cette lettre, ce livre qu'il lui a écrit, c'est... ils ont déjà 84 ans, ou un truc comme ça, et sa femme est très malade à ce moment-là, Dorine. Et donc, lui sait que c'est une lettre sur tout l'amour qu'ils ont vécu, sur toute la fidélité qu'ils se sont jurés, et puis aussi sur le fait que ça va se finir.
Oui, oui, ils savent tous les deux qu'elle est condamnée depuis très longtemps. En fait, la maladie qu'elle a, c'est une maladie qui a été provoquée en fait, par une injection de lipiodol, c'est un produit de contraste. Et ils savent tous les deux que cette maladie est incurable et qu'un jour, elle partira. Et lui, depuis très longtemps, il ne le dit pas dans le livre, mais en cherchant dans les archives, j'ai trouvé ça. Il dit qu'il ne veut pas lui survivre, quoi qu'il arrive. Dans les années 70, elle a une ablation de l'utérus. Elle est opérée parce qu'elle a un début de cancer de l'utérus. Et dans ses archives, on trouve un petit papier, une feuille A4 pliée en deux, planquée dans des notes des années 50, alors que c'est écrit dans les années 70, donc c'est comme s'il n'avait pas voulu que ça se voit, où il dit, et on l'a mis dans le spectacle qui s'appelle Dorine, où il dit je ne veux pas te survivre, en fait. S'il se passe quelque chose de grave pour toi, je partirai avec toi. Donc, dès les années 70, vraiment 35 ans avant de se suicider, il formule ça, que si elle venait à disparaître, lui, il n'aurait plus de raison d'être au monde, en fait. Et ça, c'est déjà très bouleversant à découvrir, de lire de la main d'un type qui est dans sa quarantaine et qui dit, bah voilà, moi, si toi, t'es pas là, ça sert à rien.
Et comment vous êtes passé de ce texte qui vous bouleverse à « je vais proposer à des gens d'écrire pour eux des lettres qu'ils n'ont pas pu ou pas réussi à écrire, mais qu'ils ont en eux-mêmes ».
Je cherchais un peu des solutions pour adapter des lettres au plateau, ce que je trouve très difficile. En fait, ça ne marchait pas, la lettre AD adaptée telle que je l'avais fait jusque-là, ça ne fonctionnait pas bien. Et du coup, je me suis dit « bon, bah, je suis là ». Il faut que je fasse des exercices d'écriture. C'est ce que je raconte dans le livre, et c'est vrai, c'est que tant qu'à être là, autant essayer de voir ce que la puissance de l'adresse à quelqu'un peut faire. De manière très bête, moi-même, j'avais plein de lettres que j'avais jamais écrites, en fait, que j'avais jamais envoyées, ou que j'avais commencé à écrire, mais dont je me disais, laisse tomber, tu veux régler quelque chose avec toi-même, ça sert à rien de l'envoyer. Et j'en avais plein mon ordinateur. Et donc, un après-midi, je me suis dit, tiens, et si j'essayais de faire écrivain public, de permettre aux gens de faire ce que moi, je n'arrive pas à faire pour moi-même, en fait. De me placer dans ce truc où je propose aux gens de me raconter quelque chose et d'accoucher avec eux de leur nécessité, de ce dont ils ont besoin de parler. C'était un mélange d'une chose où moi, j'avais une nécessité de travailler à l'écriture de manière très égoïste et de l'autre côté, de me mettre à la place des autres, ou en tout cas de partager avec les autres ce que moi je vivais. Donc c'était aussi comme une manière de me débarrasser, moi aussi, de cette nécessité-là.
Ce qui parcourt toutes les lettres, et précisément parce que c'est des lettres que vous avez écrites et que donc ils n'avaient pas réussi ou voulu écrire, c'est des non-dits partout. Vous avez, moi je dirais interviewé, mais je ne sais pas si c'est le mot pour vous, mais rencontré en tout cas des dizaines ou des centaines de personnes peut-être pour ces lettres. Est-ce que vous sauriez dire, après tout ça, pourquoi les gens n'arrivent pas à parler ?
Je pense que c'est très impudique pour beaucoup de gens de dire ce qu'on ressent. Je pense que dans le théâtre, dans un milieu artistique, on est habitué à l'idée que la parole est une chose nécessaire, que c'est un outil qui nous permet de partager avec le monde, mais c'est pas partout qu'on pense ça. C'est pas partout que dans nos familles, dans les rapports avec les autres, on peut dire les choses. J'ai l'impression que j'ai l'impression qu'il faut de la chance pour pouvoir se dire que risquer la parole, évidemment c'est vital, mais c'est nécessaire, quoi, que rencontrer l'autre passe par de la parole, passe par du dire, à mon sens, mais je pense qu'on n'est pas forcément tous élevés dans des maisons, dans des écoles où c'est possible, quoi. Parfois, il y a trop de peur, on a peur que la parole tue. Et en fait, je pense que parfois, la parole tue. Je pense que c'est vrai que les mots sont très chargés et que ça peut détruire. Et je pense qu'il y a beaucoup ça, en fait. J'ai l'impression qu'il y a une chose qui est très précieuse chez beaucoup de gens, en fait, paradoxalement. En tout cas, c'est ce que j'ai rencontré. Les gens que j'ai rencontrés, je voyais bien que parler, c'était un truc... c'était très précieux, quoi. On ne fait pas n'importe quoi avec le fait de dire. Donc du coup, attention. Et puis ça peut avoir des conséquences. Et c'est un acte presque physique. Je trouve qu'on le voit dans les rencontres quand il y a des choses qui sont dures, qui sont enfouies. Donc mesurer les conséquences de ce qu'on va lancer à l'autre, au monde, bah, tout le monde n'est pas prêt à les assumer, ces conséquences-là. Je pense qu'il y a quelque chose comme ça. Et après, c'est difficile de trouver des espaces de parole. Du temps où on peut parler, j'ai l'impression que ce n'est pas évident. Je pense que la quasi-totalité des gens n'ont jamais envoyé ces lettres, mais ça a modifié quelque chose pour eux. La parole a été quelque chose, ça a été un facteur de changement pour beaucoup, beaucoup d'entre eux. Mais pas tant parce qu'elle a été dite à la personne à qui elle voulait être dite, mais parce qu'elle a été dite tout court. Elle a été proférée tout court. Et quelqu'un en a fait quelque chose. Quelqu'un au monde a fait quelque chose de ces mots. Et du coup, moi, ça me donnait le sentiment que les gens se disaient « Ok, il y a quelque chose qui a entendu ce que j'avais besoin de dire. Même si ce n'est pas mon père, ma sœur, la femme que j'aime, l'homme que j'aime, c'est dans le monde. Et si c'est dans le monde, alors c'est en moi, mais il y a quelque chose qui se libère, quoi. »
Et à quoi vous pensez quand vous dites « ça a des conséquences graves parfois » Vous avez dit « la parole peut tuer ».
Il y a des mots qui blessent comme des armes, quoi. C'est pas moi qui dis, c'est Sartre qui dit que les mots sont des pistolets chargés. Je pense que la parole, ça blesse comme une arme. Enfin, je pense qu'on peut détruire quelqu'un en lui disant ce qu'on a à lui dire. Et je pense que pour le coup, c'est des cicatrices qui se referment pas parce qu'elles sont invisibles. Les blessures qu'on fait avec les mots, elles ne sont pas forcément visibles, elles ne sont pas visibles sur le corps, elles sont visibles dans le corps. Et c'est des cicatrices qui sont difficiles à fermer, je pense, parfois. Je pense à des lettres de rupture qu'on m'a demandé d'écrire, à des lettres d'insultes, à des choses qui ont été dites à des gens qui ne s'en remettaient pas. Je pense, il y a cette lettre, par exemple, de cette fille dans le livre que j'appelle Charlène, qui écrit à son père. Son père qui était violent, et ce qu'elle me racontait, elle disait, il ne me tapait pas. Hein. Enfin, pas vraiment, quoi, ou de temps en temps, mais pas énormément. Mais par contre, il disait qu'il ne comprenait pas pourquoi est-ce que j'étais né. Qu'est-ce qu'il avait foutu à faire une fille? Il y a une autre femme qui vivait dans une famille nombreuse, qui était frappée par sa mère et qui était attachée devant la maison quand elle faisait des bêtises, devant à la grille, pour que les voisins voient qu'elle s'était mal comportée. Et sa mère lui disait, mais je te tuerais, je te tuerais, si seulement je pouvais, je te tuerais. Bon, mais cette femme, elle avait 55 ans, elle avait 3 enfants, et c'était une balle dans le cœur. Enfin, c'était une je te tuerais, qu'est-ce que j'ai fait pour avoir des enfants pareils? Et elle, c'est une chose qui la hantait. Dans ce qu'elle disait, on voyait bien que ce qui l'avait frappé, c'était autant les coups, les mains que les mots. C'était très clair. Et donc, je pense que quand on entend ça, que la parole peut percuter à ce point-là, alors l'inverse est vrai. Ça veut dire qu'elle recèle une puissance phénoménale, aussi de soins, aussi de bienveillance, aussi de bonté, aussi de compassion. Je crois que c'est pas théorique, en fait. Je pense que c'est pas du tout théorique. Et on voit quand on rencontre les gens. Là, pour les lettres, il y a finalement toutes les catégories sociales. À force, au bout de 4 ans, il y a des gens qui viennent de plein de milieux. Évidemment, quand on écrit dans le 12e arrondissement de Paris, dans le 11e, on a une catégorie socioprofessionnelle, classe moyenne, bourgeoise, qui est habituée à la parole. Et on a l'impression que ça dévoie un peu la puissance des mots. Mais dans le fond, plus le temps passe, plus on se rend compte que non. Je pense que dans toutes les catégories sociales, il y a un endroit secret préservé sur la puissance possible de la parole, je pense. Ouais.
Ce qui est frappant aussi dans les lettres, je trouve, c'est la violence qu'elles contiennent. Est-ce que quand on passe trop de temps sans dire les choses, il y a forcément de la violence?
Non, je crois pas. Ce que je crois, c'est que le dispositif que je propose, je l'ai découvert en le faisant, hein, fait que ce dont viennent parler les gens, c'est de violences qu'ils ont subies énormément et qui ne sont pas assez entendues. Et ce qui était terrifiant, effectivement, à force, l'accumulation des rencontres, c'est que j'avais l'impression d'avoir affaire à un monde qui s'était fait tabasser, quoi. Je me disais, mais c'est pas... En fait, c'est ça le monde dans lequel on est. On le sait, hein, évidemment, mais quand on l'a... C'est 4 ans, les lettres non écrites, là, je l'ai commencé il y a 4 ans. Il y a un truc terrifiant d'une espèce de violence sourde de toutes catégories sociales confondues. Il y a un truc où on vit dans une... Ça donne le sentiment qu'on vit dans des rapports d'une violence inouïe, en fait, mais vraiment partout, et pour le coup, dans toutes les catégories sociales, il y avait un degré de douleur non dite et de violence subie qui c'était effarant. Je pense que c'est énormément lié au fait que ce que je propose aux gens, c'est de parler d'une chose qui n'a pas été formulée, et que il apparaît que ce qui n'est pas formulé, c'est pas souvent « je t'aime mais je te l'ai pas dit » ou « j'ai trouvé ça génial de passer 8 ans avec toi mais en fait je te l'ai pas dit » ou « je voudrais partir au bout du monde avec toi ». C'est pas beaucoup le cas, quoi. C'est pas souvent ça, c'est comme si les gens finissaient par se le dire. Je pense que c'est le dispositif qui fait ça, c'est un prisme, disons. C'est presque, je trouve là, je m'en étais pas rendu compte, ce que je cherche, au sens où... Je pense que le dispositif, sans que je m'en rende compte au départ, cherche ça, cherche la douleur. Ou en tout cas, cherche à ce que les gens puissent exprimer leur douleur, probablement.
Et ce qui frappe aussi en contraste avec... je ne sais pas si c'est en contraste, mais c'est l'idée que ces lettres, elles semblent toujours être, dans la mesure où elles existent et où elles sont écrites, une opposition à la violence ou une manière de parler pour remplacer ou pour recouvrir la violence. Et dans une des lettres que j'ai trouvée très belle, il y a une femme, peut-être que c'est Charlène d'ailleurs, qui dit à son père « ce serait génial si tu venais voir de mon côté des mots ».
Oui, non, ça c'est Hélène. Ouais. Ça c'était une rencontre très bouleversante. C'est quelqu'un qui me disait « y a pas de problème, je l'aime ». Je l'aime, mon père. Alors, c'est vrai qu'il m'a tabassé. Mais je l'aime. Enfin, il y a pas... Il faudrait qu'il comprenne, il faudrait qu'il puisse venir de l'autre côté pour comprendre, en fait, ce qu'il y a vers moi, ce qu'il y a du côté de ma souffrance, de ma douleur et de ma parole. En fait, pour le coup, dans cette lettre-là, elle baisse les armes. Elle dit « Je vais pas me venger de ta violence. Je vais te parler. » Et ça, moi, je crois très fort à ça, de dire que il y a plein de réponses face à la violence, mais il y a aussi celle-là, de dire « On arrête de se battre. » Et si on essaie de se parler, ça fait quoi? Et si tu viens voir ce que ta violence fait sur moi, c'est aussi dans la lettre de Charlène de dire je sais ce que tu as vécu enfant, parce que tu t'es fait tabasser par ton père, donc c'est classique, tu ne peux pas t'en empêcher, tu le reproduis. Mais tu sais ce que c'est la violence de ton côté, puisque tu t'es pris des mandales. Alors, parlons, bah, on est sur le même terrain, regarde, tu me frappes aussi, alors on discute. Je comprends ta violence. Je sais ta violence, je sais puisque je l'ai subie. Et du coup, je ne vais pas te taper en retour, je vais te dire que je sais ce que tu as vécu. Du coup, peut-être qu'on peut commencer à discuter. C'est cette idée-là de se dire on baisse les armes parce que ça ne marche pas, en fait, les armes. On voit bien que ça ne marche pas.
Et alors, vous disiez, beaucoup parmi les gens pour qui vous avez écrit des lettres ne les ont pas envoyées, pas forcément. Et dans le livre, à un moment donné, vous dites parfois on prend trop de temps pour les écrire. Et le temps arrête parfois les mots.
Je le pense. Alors ça, pour le coup, c'est très concret. Je pense que très souvent, on finit par ne pas écrire ce qu'on a à écrire. Je parle de la correspondance, pas de la parole, parce qu'on a trop de temps. Et qu'en fait, du coup, ben, on a le temps de l'hésitation, on a le temps de la relecture, on a le temps de à quoi ça sert, on a le temps de se poser mille questions. Et le geste primaire qui devrait consister à dire « Allez, je te dis ce que j'ai à te dire et j'y vais, je le réfléchis, mais je le relis peu », on n'y arrive pas parce que c'est trop long, en fait. Et si on est obligé, en un temps très court, de dire quelque chose, alors la nécessité, elle est comme ramassée. Il y a un truc comme ça, et au début, je mettais 1h30 pour écrire les lettres. Et je me perdais. Je me retrouvais dans les situations dans lesquelles moi j'avais été comme. Voilà, moi-même, j'écrivais pas les lettres parce que c'était trop, je m'y reprenais à 1000 fois. Et au bout d'un moment, j'ai réduit le temps. Et tant pis. S'il y en a qui ne disent pas tout ce qu'elles devaient dire, bah tant pis. C'est comme si on arrive à l'essentiel de ce qui doit se dire parce qu'il n'y a pas beaucoup de temps. Et je pense que parfois, effectivement, ce court temps, c'est pour ça que je dis le temps, parfois, il arrête les mots. Il arrête le trop de mots, le mot qui cache la vraie chose qu'on veut dire. Parce que je pense que parfois, on peut se planquer derrière une forêt de mots qui empêche de dire ce qu'on a vraiment à dire.
Mais est-ce que le temps ne joue pas aussi sur la parole dans la mesure où si on ne dit pas les choses tout de suite, et du coup c'est le cas dans les lettres, puisque par définition c'est des gens qui n'ont pas dit les choses, un peu comme plus on lâche un objet de haut et plus l'impact est violent, et plus le temps a passé, et plus les mots se sont chargés de violence. Est-ce que le temps ne joue pas aussi là-dessus par rapport à la parole? Plus on attend, plus les non-dits sont grands et plus la violence est grande.
Bien sûr, précisément, les lettres, si les gens viennent et qu'ils ont vraiment quelque chose à dire, c'est que le temps n'a pas apaisé. Le temps a effectivement chargé.
Quel genre de parole c'est une lettre? Parce que ce qu'on disait tout à l'heure, écrire à quelqu'un, est-ce que c'est pas aussi un peu une manière de lui parler sans lui parler et de s'adresser à la personne sans s'exposer à l'immédiateté de sa réponse et à la blessure que sa réponse pourrait causer aussi?
Bien sûr, ce que je pense le propre de la lettre, c'est que, évidemment, ça agit comme médiateur entre moi et l'autre, quoi. Il y a une chose où j'écris à l'autre, mais je m'écris à moi-même aussi. Je suis face à moi quand je suis face à la page blanche, à l'écran d'ordinateur. Il y a un autre fantasmé, mais je pense que ça... Je pense que c'est pour ça qu'en fait, la plupart des gens ne l'envoient pas, cette lettre. Je pense que ce qui devait être dit à l'autre est dit en l'absence de l'autre. Et du coup, ça produit quelque chose sur soi, en fait. Dans beaucoup des lettres non écrites, il y a énormément de lettres aux morts. Il y a beaucoup de lettres à des parents morts. Et je pense que les gens se sentent un peu... encore. Enfin, il n'y a pas de soin. Je déteste l'idée que ces lettres fassent du soin. Ce que je disais tout à l'heure, je pense que c'est pas thérapeutique. Je pense que ça accompagne quelque chose. Les gens se sentant entendus, il y a comme un accompagnement dans quelque chose. Mais je ne sais pas si c'est de courte ou de longue durée, j'en sais rien. Mais ce n'est pas thérapeutique, c'est que... Oui, je pense que le fait que ça soit médiatique, enfin, qu'il n'y ait pas l'autre, on n'a pas le risque de la réponse, on a le risque de s'être formulé à soi-même ce qu'on avait à l'intérieur de soi, et qu'on n'était peut-être pas tout à fait prêt à voir. Comme un chien dans le couloir, par exemple. Au moment où il y a des gens qui sont très émus, très chargés quand ils me disent ce qu'ils ont à dire, et qu'il y a un truc qui sort comme ça, mais très souvent, quand je leur lis la lettre, parce qu'à la fin des 3/4 d'heure, ils reviennent dans la loge où on est au théâtre et je leur lis la lettre que je leur propose, quoi. Et souvent, ils sont très émus et je pense qu'ils sont plus émus du fait qu'ils se reconnaissent. Ils se disent « Ah ok, c'est ça que j'avais à l'intérieur de moi. En fait, c'était cette chose-là. » Et je me pose la question, mais je pense que souvent, l'émotion vient plus de là, du sentiment de se reconnaître soi-même à travers la lettre, plus que « OK, cette lettre est envoyée, cette lettre est dite. Il y a une chose comme ça, comme si le fait d'avoir écrit ou de s'être fait écrire quelque chose, c'est ça, ça les fait accoucher d'eux-mêmes, en tout cas de quelque chose d'eux-mêmes.
Du coup, finalement, la lettre, on pourrait imaginer, en tout cas, quand on parle de lettre, on parle aussi souvent de correspondance, et dans l'idée de correspondance, il y a l'idée de circulation à deux, alors qu'en vrai, dans tout ce que vous dites, moi j'ai le sentiment que l'écriture des lettres, c'est quand même souvent un geste de soi à soi, en l'occurrence de vous à eux, mais quand même qui est plus proche du monologue que du dialogue finalement.
Oui, oui, je crois, bien sûr. J'ai le sentiment que c'est quelque chose qui... Il y a un truc qui frotte, quoi. Il y a quelque chose qui frotte en soi, enfin souvent dans ces histoires-là, sinon ils viennent pas. Je pense que c'est un rapport à quelque chose qu'on a ingéré, intégré en soi et dont on... C'est le caillou dans la chaussure, souvent, et il faut en faire quelque chose. Mais effectivement, c'est beaucoup un rapport de soi à soi, avec un autre en perspective. Évidemment, tout ça est provoqué par un autre, mais l'autre, il est loin dans le moment de la lettre. Il est... Je dirais qu'on est quatre dans ces entretiens des lettres non écrites. Il y a la personne qui va me raconter l'histoire, moi, la personne à qui ça s'adresse et la lettre. Et je pense qu'il y a un jeu entre ces quatre instances. Il y a un truc comme ça. Pour nous trois, en tout cas. C'est-à-dire pour la lettre qui est écrite, pour la personne et pour moi.
Et qu'est-ce que ça vous faisait, alors, de poser vos mots sur les histoires des autres? Parce que vous dites que parfois vous aviez juste à réorganiser, qu'il y avait déjà des choses très très belles, mais j'imagine que le plus souvent c'était quand même un vrai travail de mise en mots, et du coup mettre vos mots sur ces histoires, c'est forcément en faire un peu vos histoires ou faire de leurs mots les vôtres, ou je ne sais pas dans quel sens ça va exactement, mais quel effet ça a produit?
Très égoïstement, c'est assez génial d'avoir autant de générosité de la part de gens. En fait, ils me donnent quelque chose de gigantesque, dans le fond. Parce qu'ils me permettent d'écrire, ils me permettent d'être en compassion. Ils m'offrent la possibilité d'être en compassion, de prendre avec moi leur douleur, mais aussi de me dire, OK, qu'est-ce que ça vient faire résonner en moi et comment est-ce que je peux le transformer pour eux? Évidemment, dans toutes les lettres, en tout cas que je réussis à écrire, il y a une rencontre entre quelque chose de leur douleur ou de leur amour ou de leur nécessité qui vient rencontrer quelque chose en moi, de planqué, de secret, de non formulé aussi, mais il y a comme un dialogue un peu secret entre des expériences vécues par moi qui peuvent rencontrer les leurs de manière sourde. Et où, ça c'est arrivé au fil du temps, des expériences que moi j'ai reçues d'autres spectateurs qui se trouvent rencontrer un spectateur suivant. Je ne sais pas combien de dizaines d'histoires de viol et d'inceste et de violence sur enfants j'ai entendues, mais celles que je n'ai pas réussi à écrire rebondissent les unes sur les autres, c'est-à-dire qu'une des histoires que j'ai entendues il y a 3 ans, quand je re-rencontre quelqu'un qui a été violenté, violé, frappé, etc., il y a comme une... pas comment dire, je fais un lien entre ces deux personnes et moi, et si je n'ai pas réussi à l'écrire il y a 2 ans pour un homme ou une femme... Alors je vais, c'est comme si ça va se retrouver dans la lettre de quelqu'un d'autre, de quelqu'un de nouveau. Je vais chercher une forme de reconnaissance de ce qui m'est raconté dans ma propre expérience. Et quand je le trouve, bah c'est un boulevard, parce que c'est comme s'il y avait une... Ouais, il y a comme une forme, je le pousse un peu, mais c'est pas loin d'être ça, il y a comme une forme d'osmose. J'épouse leurs questions, leurs douleurs, leurs choses non dites, et évidemment j'y glisse des choses à moi, qui ne soit pas tant de mon histoire que du ressenti de mon histoire qui se trouve collé à la leur. Parfois, je me suis fait avoir, parce que parfois, j'ai mis trop de moi. Et les gens ne sont pas idiots, ils me le disent. J'ai eu des moments où, c'est arrivé il n'y a pas très longtemps d'ailleurs, quelqu'un me disait « Non, non, mais ça, je ne pense pas ça de mon oncle, en fait. » Enfin, là, je n'ai pas dit ça. C'est une femme qui me parlait de son oncle qui était vraiment, de mon point de vue, une ordure, pas possible. Et en gros, je disais que ce type était c'était pas possible, quoi. Et du coup, elle avait des choses à reprocher à cet homme. Je mettais un truc sur l'extrême droite, en gros. Et elle me dit, mais pas du tout. Non, pas du tout. En fait, il est pas du tout d'extrême droite. Et là, je me suis fait avoir. Je dis, oui, non, mais d'accord. Là, c'est moi qui suis percuté en ce moment par l'actualité. Et j'ai fait un collage. Et donc, je l'ai enlevé, évidemment. Et il s'agissait pas de ça, mais... Bon, mais ça, c'est un exemple, c'est très anecdotique, mais il y a dans des trucs d'amour, il y a des choses de rupture ou d'histoire d'amour douloureuse où hop, il fallait que je me retire un tout petit peu. C'est-à-dire qu'en même temps, ça collait avec quelque chose que je connaissais, que je reconnaissais, mais qu'il fallait doser. C'est pas arrivé souvent, mais du coup, c'est un équilibre très, très fragile entre faire de la place en soi pour accueillir ce que vous raconte l'autre et se dire, bah oui, bien sûr, je connais ça. Évidemment, moi aussi, j'ai souffert de tel et tel et tel truc. Mais il faut pas prendre trop de place. Donc c'est un, ouais, c'est comme une danse, quoi. Il y a un truc où faut le danser ensemble, quoi. Faut les danser ensemble, les lettres, on va dire.
Est-ce que ça a réparé des choses pour vous, combler des silences ?
Le livre a réparé une énorme chose. Ce rapport à mon père, une chose non dite, non formulée, que finalement je lui dis là, dans ce livre. Je pense que j'ai fait l'expérience du fait de ne pas pouvoir écrire à mon père ce que j'avais à lui écrire il y a longtemps, il y a, ouais, il y a 15 ans, quoi, on va dire. Ça veut dire qu'on est vieux. Alors que je suis plutôt un être qui parle, je suis plutôt quelqu'un pour qui la parole est très facile, même trop facile, donc je finis même par me méfier des mots, je me finis par me méfier du fait qu'on peut, ce que je disais tout à l'heure, on peut se planquer derrière les mots, vraiment. Moi, j'ai plutôt ce rapport-là à la parole. Alors même que j'ai ce rapport-là à la parole, là, je ne pouvais pas lui dire ce que j'avais à lui dire parce que j'avais vraiment peur de blesser, en fait. J'avais peur de casser le globe de cristal qui constitue notre relation et qu'on tient chacun et qui est très précieux. Et j'avais peur de le péter. Il y avait des fissures dedans, mais ces fissures, il fallait peut-être les laisser telles quelles. Et c'était trop... Je pense que c'est ça. Je pense qu'il y a des non-dits qui finissent par constituer un système dans les relations entre soi et l'autre. Il y a des non-dits qui finissent par structurer une relation et ben voilà, c'est cette structure-là. Et si on vient casser la structure, on ne sait pas ce que ça vient briser. On ne sait pas par quelle autre structure elle va être remplacée. Moi, c'est ça que j'ai vécu. Je dois beaucoup, beaucoup à Frédéric Martin du Tripode de m'avoir poussé à écrire, à retravailler la préface, l'intermède et la postface, parce que Frédéric me disait « Super, on le fait, mais il me manque une chose, c'est toi. » Et je lui disais « Mais j'y suis partout, en fait. Je suis partout dans les lettres. Je suis trop là. » Il me disait « Non, non, non. On veut savoir même un truc. C'est laquelle ta lettre ?» Et je lui disais « Bah, ça regarde personne. » Non. Et du coup, je suis allé fouiner, je suis allé chercher, évidemment, et j'ai travaillé surtout, c'était surtout la postface. Mais je dirais ça, ça a réparé quelque chose avec mon père. On a réparé quelque chose ensemble.
Et vous lui avez écrit une lettre à la fin, que vous lui avez envoyée ?
Non, je lui ai dédié le livre, et je lui ai dit dans le livre des choses que j'avais à lui dire.
Lettre non écrite de David Kesselson paraît aux éditions du Tripode et vous pouvez en écouter quelques-unes en bonus de cet épisode. Épisode de Fracas qui a été préparé avec et monté par Julia Courtois, réalisé et mixé par Malo Williams. La musique a été composée par Valentin Fayot. Fracas est un podcast produit par Louis Media et Radio Nova. Si ce podcast vous plaît, je vous invite à aller commenter sur Apple Podcasts, à en parler autour de vous et à découvrir nos autres podcasts, notamment Passage, notre podcast d'histoire vraie. Et si vous voulez soutenir Louis et nos projets, vous pouvez vous abonner au club louismedia.com/club. À très vite.
Bonjour. Je suis Marine Revol et je présente Fête des Gosses, le podcast de Louis Media qui vous aide à traverser la jungle de la parentalité. Dans Fête des Gosses, je démêle notamment le vrai du faux de l'éducation positive ou de la chasse aux écrans. Et je me demande par exemple, comment ne pas refiler nos casseroles et nos traumas à nos enfants. Vous y entendrez des sociologues, des psys, des philosophes et des parents. Et la nouveauté cette saison, c'est que je donnerai de plus en plus la parole aux enfants. Fête des Gosses est dispo partout. Bonne écoute.